n'est pas terminé pour Nevers. Aubameyang, Aubameyang peut-être pour crucifier le Biarro. Le voici l'essai. Oh, qui vaut cher cet essai. Victoire de Nevers qui réussit le gros coup de cette 24e journée.
Bonjour à tous et bienvenue sur BAC FM, la radio du lycée Raoul Follereau. Nous sommes Enzo et Candice et aujourd'hui nous vous proposons un nouvel épisode de Radio Valley, émission dédiée au rugby.
En ce jour de rentrée 2023, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Dumange, donc président directeur général de l'USON Nevers Rugby, ainsi que Monsieur Goguillot, président de l'association.
Donc tout d'abord, bienvenue et merci à vous d'avoir accepté cette invitation.
Bonjour.
Bonjour.
Donc on va commencer par vous, Monsieur Dumange. Pour vous présenter brièvement, vous êtes le président du conseil d'administration de l'entreprise de prêt-à-porter Textilo Plus, que vous avez créée en 1974, ainsi que l'actuel président, directeur et actionnaire de l'USON.
Oui, tout à fait, oui.
Donc pour votre équipe, la saison elle a plutôt bien commencé, malgré une défaite au stade de la Rabine face à Vannes, sur un score assez serré de 30 à 20, qui a été suivi par une belle victoire face à Montauban à domicile, avec le bonus offensif, et un troisième match assez riche en rebondissements, parce que face à Aix-en-Provence, on a rarement vu un match avec autant d'intensité dès la troisième journée et avec des faits de jeu qui ont été un peu inédits pour nous, mais qui a quand même été récompensé par un bonus défensif. Donc pour vous, cette année, c'est quoi la force de votre équipe dans le championnat ?
La jeunesse, déjà. Après, une forme d'assurance, parce qu'on a terminé la saison dernière avec, sur les 15 derniers matchs, on en a gagné 12. On a fait 2 de perdus, donc 1 contre Yo qui est monté en top 14. Et sur ce match, on n'a pas pris d'essai. Donc alors, c'est plutôt déjà pour nous une certaine victoire. On a été meilleure équipe sur la deuxième phase. Il ne faut pas oublier qu'au 12e match, on était 15e. On nous voyait presque relégués. Et en finalité, on rate les demi-finales de 2 petits points. C'est-à-dire que ce match contre Biarritz qu'on devait gagner avec une erreur mais incroyable à la 79e minute qui nous fait perdre ce match. On se dit que une côté un peu injuste, mais ça fait partie du rugby, on doit l'accepter. Revenir cette année encore dans les 4, c'est le but. On a un parcours du premier bloc qui est un peu compliqué parce qu'on était à Vannes, on va à Aix, on va à Agen, 3 prétendants au top 6. On s'en tire plutôt bien, on pouvait s'en tirer un peu mieux, mais il faut accepter, c'est comme ça, ça fait partie du rugby. Il y a des matchs qu'on doit gagner et qu'on perd, et puis des matchs qu'on va perdre, qu'on doit perdre et qu'on va gagner, ça, mais le Pro D2, c'est un long marathon, c'est 30 matchs, on n'est qu'au 3e, on a encore 27 pour faire le travail. Donc, faut oublier ça, faut passer sur autre chose. On ne peut pas vivre avec le passé, on vit avec le futur, donc il faut regarder le futur.
Donc, on se doute que vous pouvez rêver de top 14 pour notre club de Nevers. Cependant, comme vous l'avez récemment expliqué, ça demande des fonds pour l'agrandissement des infrastructures qui sont, pour l'instant, insuffisants pour passer ce cap. Donc, d'après vous, dans combien de temps est-ce qu'on pourra rêver concrètement de l'USON en top 14?
Réellement, je vous dirais joker. Mais c'est pas mon style. Donc, je vais être obligé de vous répondre. J'essaye de remuer. J'essaye de faire bouger les décideurs. Ils ont l'air de dire oui, mais je n'y crois pas. En toute honnêteté, je n'y crois pas du tout. Je pense que j'ai fait le maximum que je pouvais faire. J'ai montré le chemin. Mais ils ont tellement se dit, tout compte fait, ce qu'il fait, c'est pas mal, on va continuer avec lui, quoi. Et je pense que c'était pas le fait de lancer la machine, il faut continuer. Il faut continuer de l'alimenter. S'il n'y a plus de carburant, au bout d'un moment, ça va s'arrêter.
Oui, il faut entretenir.
Complètement. Et c'est comme tout dans une entreprise, c'est quand vous ne progressez plus, vous régressez. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, dans toute ma carrière de chef d'entreprise, j'ai toujours regardé ce que faisaient les autres et ne pas se regarder le nombril en croyant qu'on est le meilleur, sinon on ne progresse pas. Donc je regarde ce que font mes collègues. Pendant la période de Covid, pendant que nous sommes endormis, eux ils ont travaillé. Et quand on se réveille, on a pris du retard, mais le retard est considérable. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses, mais si par, je dirais presque par malheur, on pourrait accéder au top 14, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut y aller ou faut pas y aller? Alors aujourd'hui, je dirais non, faut pas y aller. Alors si je tombe sur une équipe comme Aix, Vannes, Agen, Grenoble, je vous donne les équipes structurées, vraiment bien structurées, et que je gagne cette finale et je monte au top 14. Le principe que j'ai aujourd'hui, c'est l'honnêteté. Je me dois de refuser la montée. Parce que je ne suis pas prêt, eux sont. Et si on parle de solidarité, d'amitié dans le rugby, je serai obligé de décliner ma montée. Alors on parlera sûrement beaucoup de Nevers à ce moment-là, parce que c'est jamais arrivé. Alors j'aimerais pas qu'on arrive à ce niveau-là, mais je ferai tout pour y arriver. Donc c'est sûr, parce que je pense que Nevers n'a jamais été reconnu et vu autant qu'aujourd'hui. On ne parle pas de textilo, on parle de Nevers. Okay. Alors, tous les clubs concurrents à Lucerne ont des infrastructures qui appartiennent soit à l'agglomération, à la municipalité, etc. Ce sont des infrastructures publiques. Et souvent, le chef d'entreprise, le patron, le président de la SASP, a en charge de la gestion. Lorsqu'ils ont des infrastructures qui sont tenues par le public, on refait un loyer. Donc on paye un loyer. Mais le loyer est souvent compensé par des subventions. Donc ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte pas. Ou souvent l'amortissement, il se fait sur 50 ans. Il ne se fait pas sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, comme dans une entreprise. C'est différent. Dans le sport, dans une collectivité, c'est complètement différent. Je veux bien porter toute la partie professionnelle. Alors, je l'ai mis en place, je ne vais pas m'en aller maintenant. Donc la menace, je n'y crois pas trop, si je m'arrête. Alors, je leur demande au moins de faire l'effort sur la partie associative. Donc je ne parle pas pour moi, là. Je parle pour le rugby général. Donc ce n'est pas moi qui tends la main. C'est moi qui fais pression pour que la partie associative soit soutenue par des infrastructures, par ce s'appelle une aide pour la formation, tout ce qui est à côté, ce qui se fait par le lycée chez vous. Mais on doit continuer d'avancer sur cette partie-là. On est un des seuls clubs qui n'avons pas d'académie. On a été obligé de faire notre académie privée, donc une académie d'État, mais une académie privée. Donc ça coûte encore en plus. Et plus ça coûte, et moins on nous aide. Donc au bout d'un moment, ça ne peut pas durer.
Oui.
Alors, il est sûr que quelquefois, j'égratigne un petit peu, je rouille un petit peu dans les brancards, ce qui fait que c'est certain que ça déplaît. Mais j'ai quand même une certaine liberté de pouvoir m'exprimer. Donc oui. Ça, c'est important. C'est vrai que vous me direz que la liberté, je la paye un certain prix. Mais qu'est-ce que c'est bon d'avoir une certaine liberté quand même. Donc, il faut continuer à partager et aider cette association sur les infrastructures. Parce que si on aide sur les infrastructures, on peut espérer que derrière, on ait des investisseurs qui puissent venir sur un système privé et pourquoi pas agrandir le stade du Pré-Fleury parce qu'il demande à être agrandi.
D'accord.
Alors, Vannes, j'étais à Vannes et j'ai rencontré le président de Vannes. Vannes était, en 2019, était au même niveau que nous au niveau billetterie, spectateurs. C'est-à-dire que nous, on était à 7002, ils étaient à 8000. Aujourd'hui, nous, on est en dessous de 7000, 6005. Eux, ils sont 11005. Ils ont agrandi le stade. Ils agrandissent encore le stade. Et plus on apporte des infrastructures qui font rêver, et plus les gens viennent regarder. D'où l'intérêt aujourd'hui de travailler sur le stade aussi.
D'accord. Bon, on reviendra sur les infrastructures un peu plus tard. Mais...
Alors, on va revenir dans votre actualité. Vous avez récemment été réélu au comité directeur de la LNR, de la Ligue nationale de rugby. Pour la Pro D2, donc tout d'abord félicitations à vous. Vous avez ensuite déclaré que pour vous la prochaine étape était d'intégrer le bureau pour pouvoir décider. Si aujourd'hui vous atteignez ce bureau, quelles sont les choses que vous voudriez changer dans notre rugby français actuel?
Bonne question. Si je vous dévoile tous les armes aujourd'hui, ils ne vont pas me faire élire au bureau. Il faut que je sois prudent dans mon retour. J'aimerais changer... la partie solidarité entre le top 14 et le Pro D2. Donc, vous voyez, il faut que je sois très prudent. J'ai des idées dessus, comment on peut améliorer les choses. Il est certain que la Pro D2 est l'antichambre du top 14. Nevers a toute sa place dans l'antichambre, c'est le vivier. Pour cela, il faut donner les moyens. Or, à chaque fois qu'on décide quelque chose, les moyens vont toujours sur le top 14, mais on ne pense pas au Pro D2. C'est comme si aujourd'hui, on décidait d'avoir des gens de très haut niveau sortant de l'école, mais ne pas favoriser l'entrée dans les universités, dans les prépas, etc.
Il n'y a pas assez de lien entre les deux championnats.
Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que nous, on continue d'avoir les moyens de former si on veut avoir des joueurs de top 14. Parce que les centres de formation de top 14, aujourd'hui, sont les premiers à recruter. Pourquoi ? Parce que les parents vont plus facilement voir un club de top 14 qu'un club de Pro D2. Les infrastructures ne sont pas les mêmes. L'encadrement est différent. Et le rêve est tellement important de voir son fils de pour intégrer et surtout de dire « Mon fils est rentré à La Rochelle, mon fils est rentré à Toulouse. » Je peux dire que mon fils est rentré à Nevers. Donc, oui, c'est pas tout à fait pareil, vous comprenez. Donc, ce sont, entre guillemets, des prédateurs. Ils se servent. Mais comme ils sont gavés, ils ont énormément, ils ont trop à manger. Finalité, ils laissent beaucoup de monde sur la route. Alors, plutôt que de laisser des mondes sur la route, ils vont rejoindre le Pro D2. Mais le problème, c'est que le système d'attribution des droits de formation fait que vous êtes obligé de payer des droits de formation au club qui a été prédateur en plus de ce que vous avez chez vous. Donc, le système, il est pervers.
Ouais, c'est...
Complètement pervers. Donc, il faut changer ce système-là. Qu'un club de top 14 paye des droits de formation à un Pro D2, c'est normal. Mais qu'un club de Pro D2 paye des droits de formation à un top 14 qui n'a pas conservé son joueur parce qu'il en avait trop et qui vous le redonne et que vous allez pendant 10 ans lui verser des droits de formation, je trouve que ça s'appelle un petit peu de l'escroquerie. Bon, ça, c'est aussi fait partie un petit peu de la rébellion que j'ai souvent au rugby. C'est pour ça que est-ce que je vais pouvoir intégrer le bureau ?
Alors, on vous le souhaite en tout cas. Oui.
Ça va être difficile, peut-être. Mais j'espère que, étant élu à 75% des voix au comité directeur, je ne vois pas comment qu'il me refuserait cette place. Le comité directeur propose, le bureau décide. Donc, il vaut mieux aller chez les décideurs.
C'est vrai. Donc, en parlant de top 14, on sait que vous avez reçu le club de l'ASM, donc de Clermont, pour un match amical. Et Christophe Urios a donc dit qu'il venait à Nevers pour la première fois et qu'à cette occasion, il a découvert Nevers. Donc, est-ce que vous pensez que grâce au rugby, Nevers a pu être découvert et placé sur la carte de France, enfin, pour de vrai ?
Ça l'est aujourd'hui déjà. Quand tous les clubs de Pro D2 viennent à Nevers, ils se disent qu'est-ce que c'est loin. Donc ils ont bien vu le trajet qu'il fallait faire. Mais ils se disent c'est pas possible. À chaque fois, tous les 15 jours, ils viennent chez nous. Ils font beaucoup plus de trajets que nous. Tels Vannes, comme nous, ou Massy, qui était à côté. Donc très difficile pour des clubs du Nord, c'est-à-dire au-dessus de Brive. Ça, c'est les clubs du Nord.
Oui.
Nous, on est presque dans le Grand Nord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui nous handicape un petit peu, c'est la situation géographique. Mais ça ne se fera pas en un an. Ça sera sur quelques décennies, mais ça devra se faire. Oui, on situe Nevers maintenant. On le situe bien. On sait où ça se trouve. Je pense même que on pourra peut-être avoir un jour espéré avoir un reportage sur Canal, compte tenu des résultats qu'on a aujourd'hui, et bien faire découvrir que ce petit club de Nevers est un grand club. Un grand club formateur, un grand club. Ce qui surprend un tout petit peu, c'est que chaque année, Nevers est oublié un petit peu, parce qu'on a des recrutements qui sont des recrutements jeunes, issus de la formation, ou issus de jeunes oubliés dans des structures plus basses comme nationales ou même fédérales. Et en finalité, on a quand même une très belle équipe. Alors, c'est comme tout, on nous prend nos joueurs, on a beaucoup de joueurs qui sont partis en top 14, des joueurs qui sont sélectionnés en équipe de France, qui viennent de Nevers, formés à Nevers ou relancés à Nevers. Alors, je pense que j'ai un bon staff.
C'est vrai.
Alors, on en a parlé juste avant que Nevers est excentré un peu par rapport aux autres clubs, que ça reste un désavantage. Malgré tout, Lusson arrive quand même à être un club formateur. Mais qu'avez-vous mis en place pour que cela devienne et qu'il attire les joueurs à venir chez nous ?
La formation, c'est une question de travail, de remise en question. C'est-à-dire que Il faut se remettre souvent en question, travailler énormément plus. Et c'est vrai que nous, étant à Nevers, n'étant pas dans une zone rugbystique, il faut travailler en plus que les autres. Mais quand vous avez l'habitude de travailler, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Parce que le travail, après, ça devient une ADN du club, ADN de la personne. C'est-à-dire que on ne vit pas avec ses acquis, avec du moins ce qu'on a, une génétique en quelque sorte. Et on travaille plus. On est peut-être moins bon au départ, mais ce qui prouve que le travail rend souvent bien meilleur parce qu'on est plus préparé à la confrontation et au travail qui est un petit peu le fer-lance du rugby, le travail, toujours le travail. C'est pour ça qu'on fait des skills, pour ça qu'on refait le même mouvement plusieurs fois, jusqu'à ça devienne un automatisme. Et bien c'est pareil, le Nevers, c'est sa formation qui fait qu'on est en devenir, on peut arriver à être encore beaucoup plus haut. Donc, ce que je répétais tout à l'heure, c'est d'abord la formation, toujours la formation.
Le travail et le perfectionnement.
Tout à fait.
Donc, moi, je vais vous poser une question qui va attirer une réponse assez subjective. Mais est-ce que pour vous, le stade du Pré-Fleury a la meilleure ambiance du championnat ?
Mais je dirais oui, parce que c'est mon club. mais je vais être honnête, si c'est pour faire du bruit, on n'est peut-être pas le meilleur, parce que notre bruit est quand même très ciblé par rapport au match. Si vous voulez avoir une ambiance de fou, entre guillemets, je ne traite pas de taré, hein, de façon, non, si vous voulez une ambiance de fou, elle est à Perpignan. Mais ouais, pour l'équipe adverse, c'est insupportable. Si vous avez des ambiances qui sont de ce style, ça sera à Perpignan le club le plus grand supporter, hein, mais moi je pense que les clubs qui sont les mieux formés, les mieux disciplinés en niveau spectateur, je pense que je mettrai Nevers et Vannes au même niveau, parce que ce sont des clubs hyper respectueux. Maintenant, j'étais déçu sur Vannes l'année dernière, on a gagné, on s'est fait siffler quand on a gagné à la dernière minute. Comme quoi, de temps en temps, les travers, oui, on ressort quand même un petit peu. Nous aussi, l'arbitrage se trompe un petit peu, l'arbitre comprend tout de suite qu'il s'est trompé. Donc ça veut dire qu'on reste dans le respect malgré tout. Mais maintenant, on a un super public, c'est sûr.
On le sait tous, c'est de l'actualité. La Coupe du Monde arrive en France d'ici une semaine. Comment le club de Lucerne va s'intégrer dans ce contexte de Coupe du Monde ?
On peut s'intégrer, mais on s'intégrera à son niveau. On n'est qu'en Pro D2, on n'est pas en Top 14, c'est toujours pareil. Okay. On peut faire ce que vous voulez, on ne sera pas regardé comme un club de Top 14. C'est le Top 14 qui tirera les marrons du feu, c'est pas nous. Nous, on sera là toujours dans le vivier, on sera en retrait. Oui, on va faire des choses, mais ça ne sert à rien de gaspiller beaucoup d'argent dessus pour plaisir de gaspiller. Aujourd'hui, ouais, cet argent, il faut mieux le mettre dans la formation, bien sûr, toujours. Formation. Ah, je suis un peu pénible, mais c'est vrai.
Et donc, on parlait tout à l'heure de votre entreprise. Donc, comment est-ce que vous parvenez à cumuler la casquette de chef d'entreprise et aussi de président du club de Lucerne, qui est quand même un club en Pro D2 ?
C'est beaucoup plus facile, très facile de tenir une entreprise qu'un club de Pro D2. J'ai découvert un management complètement différent dans le rugby, dans le sport de haut niveau, que ce dans une entreprise. Si j'avais une entreprise de 40 ou 50 personnes, c'est sûr que j'aurais pas les mêmes problèmes que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas du tout de problème parce que j'ai une structure, j'ai des cadres, j'ai des gens qui font bien leur travail, j'ai des gens qui sont chez moi depuis plusieurs décennies, qui sont là à mes côtés. J'ai passé la main depuis maintenant plusieurs années à Sébastien, mon fils. On a une entreprise familiale et on a conservé cette culture familiale. C'est-à-dire que même si on est 611 personnes, c'est la convivialité reste dedans. C'est-à-dire qu'on va retrouver un petit peu cet esprit rugby, oui, d'honnêteté, de tout ce qui se passe dans l'entreprise, ce que j'ai acquis pendant ma période de rugbyman. Et alors, par contre, dans la CSP, c'est un peu plus compliqué. Nos joueurs, ce sont des grands garçons, ce sont des gamins.
Oui.
Je ne dirais pas immatures, mais non matures, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'ils sont protégés depuis leur enfance. Ils ne connaissent pas trop bien la vraie vie. Ils la découvrent au mariage, ils la découvrent au premier bébé, au deuxième bébé. Et là, ils s'aperçoivent aujourd'hui que la vie de sportif passe très vite. Et on commence maintenant, avec le système professionnel, à être beaucoup plus attentif à la reconversion et savoir comment va se passer sur l'avenir. Donc, mon regard de chef d'entreprise n'est plus sur la formation, mais plus sur la reconversion. Voilà. Donc, la formation, j'en ai besoin. Mais je dois aussi travailler sur la reconversion derrière pour ne pas laisser des joueurs sur le bord de la route.
Mais de toute manière, avec M. Goguillot, ici présent, vous arrivez à vous épauler mutuellement.
Oui, parce que lui, il me donne la ressource et moi, il faut que je travaille sur ce qu'il m'apporte. Ça veut dire que j'ai besoin, en quelque sorte, d'avoir une confiance totale dans cette formation qui est mise en place. Et non seulement dans cette formation qui est mise en place, mais sur la régularisation de toute la partie financière, tout ce qui est à côté, etc. Pour ne pas mettre l'argent où il ne faut pas, mais le mettre où on en a vraiment besoin. Donc, mon rôle, en quelque sorte, c'est de travailler avec lui sur l'organisation financière du club, de l'association, pour ne pas faire n'importe quoi.
Très bien.
Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, donc vous êtes au club, président du club depuis 2009. Dans combien de temps pensez-vous laisser le club dans les mains d'un nouveau propriétaire?
Quand j'ai passé l'entreprise à mes enfants, c'est dans la corbeille de mariée, il y a Lussonne. L'entreprise, elle n'est pas vendue, elle est offerte à mes enfants. À charge pour eux de continuer mon activité. J'ai confiance. Je pense que ça fait partie un petit peu du retour qu'ils doivent me faire. Et même quand je ne serai plus là, je sais que Lussonne existera toujours. Et s'ils n'existent plus, c'est parce qu'il y a vraiment eu un gros coup derrière. Il s'est passé quelque chose d'incontournable et qu'on aura été obligé de prendre des décisions pour la vie de Textilo.
Bien sûr.
Pour pas que ça soit une danseuse qui emmène Textilo dans le mur. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, ce que j'ai demandé à mes partenaires aujourd'hui, de faire un gros effort sur l'association pour me faire une donation en plus, parce que j'en ai besoin pour la formation. Et que le Textilo en ce moment, on est pas mal, hein. On n'est pas bien.
Mais le contexte actuel est assez difficile pour
le textile.
Le textile.
Oui. L'augmentation de toute la partie... restauration, du moins de l'alimentation a fortement augmenté. Les armoires, c'est pas biodégradable. On a toujours quelque chose pour s'habiller. Sur l'été, c'est un peu plus facile parce que ma clientèle est féminine. Je ne dis pas qu'elle se déshabille, mais elle est moins habillée l'été. On aime bien, les articles sont un peu moins chers, tout ce qu'il y a à côté. Mais quand l'hiver arrive, vous avez les caches-misères qui est là, c'est le manteau.
Oui.
La misère est en dessous le manteau. Et ça, à la limite, on peut s'en passer. Pendant plusieurs décennies, on a fait beaucoup de marketing, etc., autour de sur la consommation, etc., pour titiller le besoin d'acheter, même si le prix n'est pas cher, tout ce qu'il y a à côté. Et on s'aperçoit aujourd'hui que plusieurs décennies peuvent être cassées en une année ou deux années par un baisse de pouvoir d'achat qui est existant. Il est là, le pouvoir d'achat, vous ce que vous voulez, il est là. Les grandes agglomérations peuvent très bien s'en sortir parce qu'ils ont des moyens de voyage pour aller au travail qui est différente que nous en province. Nous, la voiture, on en a besoin. Et quand je regardais aujourd'hui, hier soir, ou du moins samedi soir, le Brent était à 89$. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va passer le cap des 2€. Et ce matin, j'ai fait le plein. Ça y est, on est en train de monter. On annonce aujourd'hui des choses, toujours sur la radio, des choses qui sont affligeantes au niveau mental. Ça fait du mal. On nous annonçait de 2,50€, etc. Mais aujourd'hui, les gens, aujourd'hui, la voiture, on ne peut pas s'en passer. On est dans une période très compliquée. Le quoi qu'il en coûte aujourd'hui, il faut le rembourser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les taxes pétrolières sont là. On va falloir les remplacer en jour. Mais les remplacer par quoi? Par l'électricité. Ça veut dire que les gens disent, mais demain, quand on sera tous en électrique, l'électrique va fortement augmenter. Donc, finalité, on ne voit pas à l'horizon une augmentation du pouvoir d'achat. C'est compliqué. Donc, aujourd'hui, les gens subissent, écoutent. Donc, automatiquement, on économise. Et on économise sur le prêt-à-porter, sur les vêtements. Et ça, ça nous gêne. Depuis le 1er janvier, il y a eu 10 000 emplois qui ont été supprimés, emplois marchands, sur le textile. On peut aussi travailler sur le chaussant, tout ce qui est à côté, etc. Tout ce qui peut, ce qui n'est pas biodégradable et qu'on peut mettre se passer. Et des moments qu'on a appris à quelqu'un sans passer, qu'est-ce qu'il se dit ? Pas tout compte fait, je n'ai pas acheté, mais ça ne m'a pas manqué. Et là, là, c'est bien très grave. Donc, vigilance, attention. On n'est pas en perte, on n'est pas en gain ouais. exceptionnel.
Il faut savoir réguler entre les deux, entre le gain et la perte.
Ouais, et il ne faut pas que ce soit Lusson, qui soit aujourd'hui la faiblesse
de Textilo.
Le tendon d'Achille de Textilo. Donc c'est pour ça que j'ai dit, j'ai demandé, aidez-moi, alors que moi depuis longtemps je porte tout seul, aidez-moi, j'ai besoin, et j'ai pas d'aide. Sur les 100 partenaires qui ont répondu, les premiers 100 partenaires qui ont répondu, seulement 10% ont apporté leur aumône au niveau de l'agglomération. Alors que si vous faites un chèque de 1000 euros, même pour Kidam, pour n'importe qui, aujourd'hui ça coûte 400. Oui. Avec l'addition fiscale, quand vous êtes imposé, ça coûte 400. Sur les 400, vous distribuez, vous divisez par 12, ça fait 33 euros. Si aujourd'hui j'ai 200 qui me mettent 1000 euros, j'ai 200 000 euros, je sauve l'association. C'est quoi 200 ? C'est rien. C'est rien. Ben non. On est dans un monde d'égoïsme. Alors les gens se disent généreux, mais c'est pour eux. Ça s'appelle de l'égoïsme. Et ça me perturbe. Si moi j'avais fait ça depuis le début aujourd'hui, si j'avais pas retourné une partie de ma richesse dans la Nièvre qui m'a fait grandir, est-ce qu'aujourd'hui on en serait, le Nevers serait reconnu, etc. On se plaint aujourd'hui que ce département est en train de perdre du nombre de jeunes, d'habitants, mais il faut apporter du rêve, il faut apporter quelque chose, il faut apporter du dynamisme. Ben non. Toujours ce problème de dire on économise. Et moi, chaque fois que j'ai eu un problème dans mon entreprise, j'ai essayé de développer, d'économiser. J'ai essayé de compenser par un développement du chiffre d'affaires, par prendre des nouvelles parts de marché, pour compenser la perte qui peut exister. Au fur et à mesure, quand vous économisez, vous finissez par plus rien faire du tout. Et vous êtes en train d'appauvrir ce système. Bon voilà, je vous ai fait un petit peu une petite résumé d'économie, exactement comment ça se passe. Mais je suis un grand bavard, donc je vais plutôt arrêter maintenant.
Ah oui. c'est très bien.
Eh bien, merci à vous d'avoir répondu à cette première partie de questions. C'est pas fini, mais on se retrouve dans quelques minutes, juste après Waves de Imagine Dragons. 21 years, she figured it out. She started a job, she's feeling it out. And for once, it feels right. She's feeling like the prime of her life. But all of that, it's just a dream. Shattered now, and everything's changed with one car and one night. It's driving through the prime of your life. Took your freedom. There's no reason. Just keep breathing. Time doesn't hear if you ask it to wait. La 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 la. Own all your tears and just roll with the waves. La 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 la. Laugh, it could change, it could change in a day. La 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 la. Cherish the years and just roll with the waves. La 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 la. Time doesn't heal, so roll with the waves. 11 years old, I'm the friend, you're taking me in, but where was I? Well, he took his life, well, I was singing in the prime of my life. Changing.
I'd rather be here thinking about the now, 'cause this breath could fade fast and this day could be your last.
Nous sommes de retour sur Radio Valley. Donc nous sommes en présence de Monsieur Régis Dumange et Monsieur Goguillot, qui sont les présidents de l'USON Nevers Rugby. Nous avons abordé tout le côté un petit peu professionnel de l'USON et nous allons maintenant évoquer tout ce qui concerne plus l'école de rugby. Donc Monsieur Goguillot, vous avez été élu au comité directeur de l'association en 2018 et vous avez à cette occasion confié au journal du centre que votre projet était de faire accéder les équipes jeunes au plus haut niveau national. Donc c'est chose faite pour les U16 et U18 qui sont respectivement en à la Mercerie et en Crabos. Et quant aux féminines, elles sont montées en fédérale 1 l'an dernier. Donc comment vous avez procédé et comment vous êtes organisé pour arriver à tout ça?
Déjà c'est beaucoup de travail. Je pense au départ il a fallu faire un bilan de la situation pour savoir comment on allait se lancer. On a beaucoup travaillé avec Régis Dumange pour pouvoir écrire un plan de structuration du club qui allait pouvoir nous permettre de monter au plus haut niveau et d'atteindre nos objectifs, parce que la place est très chère. Je me souviens des phases qualificatives pour accéder notamment au Crabos, où on n'était absolument pas invité. Premier match, on a eu quelques problèmes au niveau même joueur, parce que le niveau était beaucoup trop fort pour nous. Donc au niveau santé, en gros, on a eu des protocoles commotion. Donc il fallait aussi gérer cette problématique. Souvenez-vous, il y a quelques années, on en a beaucoup parlé. Donc oui, il a fallu structurer tout ça. Et puis surtout avoir un encadrement qui nous permette de pouvoir amener les jeunes au niveau individuel déjà, à leur plus haut niveau. Parce que si on vise que le championnat, ça ne marche pas en fait. Ouais. Et puis derrière aussi créer un collectif et ce qu'on appelle des filières en fait de rugby, de formation. Je me souviens à l'époque, on recrutait quasiment la totalité de notre équipe en externe. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas, puisqu'on a même arrêté les détections U18 il y a 3 ans. Maintenant, on recrute uniquement en U16 et bientôt en U14 d'ailleurs, qui va devenir maintenant le premier palier en fait pour le haut niveau. C'est à ce prix-là, et puis derrière aussi, c'est une responsabilité au niveau budgétaire, puisque Monsieur Dumange nous a permis d'augmenter de façon très significative notre fonctionnement, puisqu'on l'a doublé en 5 ans. Il fallait avoir sa confiance, donc derrière avoir des résultats, sérieux, et puis surtout tenir nos budgets.
Oui.
Donc voilà. Et en parallèle de ça, il fallait aussi faire beaucoup de lobbying. Donc le club s'est investi et a adhéré notamment au syndicat des présidents des clubs amateurs, des clubs supports, donc Pro D2 Top 14. À l'heure actuelle, je fais partie du bureau. Donc on a des réunions fréquentes avec la DTN, la fédération et puis même la LNR d'ailleurs, pour parler du haut niveau jeune qui commence aujourd'hui de U14 et qui va jusqu'aux espoirs.
On sait également que le souhait du club est de permettre donc justement à cette équipe espoir d'accéder au niveau Réchel, qui est le meilleur de France. Quelle est la stratégie adoptée pour espérer y parvenir?
C'est toujours pareil, en fait. C'est notre fameuse filière de formation. On a une spécificité, on est dans la Nièvre, on sait que c'est très compliqué en fait, d'attirer des jeunes. Ce matin, justement, on était là pour accueillir nos jeunes au sein de la rentrée. Pour certains, ils habitent en local. Pour d'autres, ça demande des efforts parce qu'on leur demande en fait, d'être internes. Donc c'est un pari sur l'avenir qu'ils font avec leurs parents, le lycée et le club. Et puis aussi pour eux-mêmes, parce que le chemin est long. On sait qu'il y a la volonté qui est là. Mais derrière, il faut gérer toute une saison, il faut gérer les compétitions, il faut gérer les blessures, oui. Il faut gérer le niveau scolaire qui, on sait, en ce moment, il fait beau, c'est facile. Et puis on aura novembre, décembre, janvier, février.
Ouais, la période,
on
sait que dans le creux, quoi.
Voilà, c'est un peu plus compliqué. Ben, on sera là aussi pour les soutenir. Il y aura le soutien scolaire. Et puis voilà. C'est, encore une fois, maintenant, on a l'expérience avec nous. Ça fait 4 ans maintenant qu'on rôde le système qui est toujours perfectible, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on sait que ça porte parce que les jeunes qui, peut-être, hier, allaient au Racing, à l'ASM, au Loup, à Oyonnax et autres, aujourd'hui, ils viennent chez nous. Et ils viennent chez nous parce qu'on a des résultats et parce qu'ils connaissent le club de Lucerne-Nevers Rugby. Alors aussi, peut-être, via les annonceurs, Régis Dumont, j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que l'équipe 1 nous aide beaucoup. Et puis, quand vous passez sur Canal+, ben, aujourd'hui, les gens savent où est Nevers.
Et du coup, Monsieur Dumange a beaucoup abordé la formation dans la première partie de l'émission. Donc, il y a le centre de formation à Nevers qui a ouvert ses portes en 2010. Donc, il est pas mal destiné aux pros. Et enfin, il est où concrètement le lien entre l'école de rugby et le centre de formation ?
Je vous parle des chiffres. Il y a quelques années en arrière, Régis Dumange comptait... espérait avoir beaucoup de jeunes issus de l'école de rugby, en tout cas de la préformation, qui viennent grossir les rangs de son équipe espoir. Il y a 3 ans, la nouveauté, c'est que la première année de besoin de plan de succession des espoirs, c'était 50% des jeunes de U18. Il y a 2 ans, 50%, et cette année, 100%. Donc ça veut dire qu'il y a 11 jeunes sur 40-45 joueurs qui rentrent au centre de formation. Enfin, en tout cas, qui viennent compléter l'équipe espoir. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et c'est ce qui prouve que durablement, on est en train de gagner le pari.
Très bien.
Donc, on évoquait tout à l'heure la récente montée des seniors féminines en Fédéral 1. Quels sont les objectifs dorénavant pour les effectifs féminins ?
Donc déjà, pour passer le step de Fédéral 1, c'était déjà pour nous quelque chose de très important à atteindre. On avait des ambitions l'année dernière pour atteindre ce niveau-là, mais vous savez que les ambitions, ça suffit pas.
Il faut le travail à côté.
Exactement, et puis il y a la loi aussi du terrain. Hein. C'est pas parce que vous avez tout prévu que ça se passe exactement comme vous l'avez prévu. Ça, bien au contraire.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est la loi du... Et puis d'ailleurs, c'est ce qui rend notre sport hyper intéressant.
Et authentique.
Exactement. Donc on a pu y arriver. Aujourd'hui, on s'installe en F1. On le retrouve en fait, puisqu'on l'a été il y a quelques années.
C'est voilà. Ça.
Et c'est toujours pareil. C'est le bouche à oreille. C'est Marie Benoît, notre responsable de la filière féminine, que je crois vous avez déjà interviewé.
Oui, on l'a déjà reçue fin d'année dernière.
Qui, par sa passion, son charisme et puis son réseau, réussit aussi à faire venir des jeunes filles qui jouent à des niveaux supérieurs pour tirer l'équipe vers le haut. Et puis aussi toutes celles qui ont contribué au fait de faire monter cette équipe en Fédéral 1. Et c'est un vrai collectif, là. Elles ont commencé leur début d'entraînement. Elles sont une trentaine sur le terrain, alors qu'on était fin août. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Et puis au-delà de ça, l'EDR... On a aussi nos féminines qui arrivent, puisqu'on a eu la joie et l'honneur de faire partie des 33 écoles de rugby en France qui ont leurs 3 étoiles, puisque c'est le maximum que l'on peut obtenir au niveau de l'EDR. Donc ça, c'est une réelle aussi reconnaissance, quoi. Voilà, sur 458 labellisés et sur 2000 et quelques clubs. Donc voilà, donc Nevers Rugby aujourd'hui, Hussein Nevers Rugby, qui cette année en fait c'est 120 ans d'histoire, affiche des résultats sportifs qui sont excellents, puisque les féminines sont en F1, nos alamerceries sont vice-champions de France en alamercerie challenge. Et puis, on a nos quarts de finale en U18. Alors qu'il y a 3 ans en arrière, on se qualifiait à 0,64 points pour ne pas redescendre. Voilà, donc ça joue à tout ça.
Et le club est toujours en progression par rapport à l'année passée, en fait.
Tout le temps. Et Régis l'a répété, je vais le marteler aussi, c'est le travail, la rigueur, le sérieux, le travail, la rigueur, le sérieux. Et puis, surtout, jamais oublier la notion de plaisir, parce que le sport, le rugby, c'est un sport, et il ne faut pas du tout occulter cette notion de plaisir.
Bien sûr. Donc aujourd'hui, pour la saison 2023-2024 qui arrive, quels sont les projets tant au niveau de l'école de rugby qu'au niveau professionnel, même si on l'a déjà un petit peu abordé tout à l'heure?
Pour la filière, c'est continuer la consolidation de notre filière, principalement axée maintenant aujourd'hui sur les U14, puisqu'on a mis un patron des U14, Solomon Francis, qui lui va prendre ça en main avec Jonathan Garcia, qui est le directeur de l'académie et du haut niveau jeune chez nous, et Manu Cabanès, qui est le directeur sportif du club, en lien avec le manager général Xavier Pemeja. Et puis on a la chance, parce que c'est une chance, il faut le dire, d'avoir un président de CASP qui s'occupe du rugby, ça veut dire du plus jeune EDR, garçon comme fille, jusqu'au pro. Et ça, c'est pas partout pareil, je peux vous le dire.
Oui, il y a une, enfin, il y a une très belle fusion entre le niveau pro et l'école de rugby, en fait.
Tout à fait. Et puis, encore une fois, ça passe aussi par un suivi budgétaire très important, parce que quand vous allez présenter vos budgets au président de la SASP, qui sont chaque année en hausse,
ah oui, forcément.
Et ben, il faut assumer derrière. C'est... D'ailleurs, ça me permet aussi de passer un petit message. On a lancé il y a quelques années le mur solidaire, qui permet en fait de pouvoir financer notre académie. Et n'hésitez pas à aller en ligne ou au club pour effectuer des dons en défiscalisation, pour ceux qui payent aussi des impôts, qui nous permettent de pouvoir continuer
à faire vivre le club.
À faire vivre le club, et puis surtout à former nos jeunes et nos encadrants. Parce que former nos encadrants, ça coûte aussi beaucoup d'argent.
Bien sûr.
Puis je remercie aussi les bénévoles, parce que vous savez que le bénévolat en France, ça devient extrêmement compliqué.
C'est vrai.
Voilà, on a des vies trépidantes et il faut prendre sur ces week-ends ou autrement, toute la semaine même, parce que vous savez qu'on a des bénévoles qui viennent au lycée récupérer les jeunes en bus, etc. Donc voilà, et puis aussi l'EDR, les 4 heures, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent toute l'année. Donc sans les bénévoles, ça ne marcherait pas, sans nos salariés, ça ne marcherait pas, et puis sans l'appui de la SASP, ça ne marcherait pas. Et puis les collectivités locales aussi, qui nous aident beaucoup à travers leurs subventions. Et s'ils pouvaient continuer à nous aider, voire un petit peu plus, ce serait parfait. Je reviendrai aussi sur les infrastructures. Ça devient maintenant nécessaire. Parce qu'en fait, je fais partie de l'APAR, en fait. C'est l'association des présidents de clubs support, donc amateurs, qui sont rattachés au club pro, donc Pro D2 et Top 14. Donc on est 30. Il y a 4 ans en arrière, on avait de l'avance. Aujourd'hui, on a réellement du retard. Et ça, par contre, c'est pas inquiétant, c'est préoccupant. Inquiétant, ça voudrait dire qu'on baisse les bras, donc c'est pas le cas. Par contre, effectivement, c'est préoccupant. Et c'est une question centrale l'année où on prétend monter un dossier pour obtenir enfin la reconnaissance APER que la Fédération Française de Rugby est prête à nous donner aujourd'hui. Donc, sans infrastructure, on va pas aller très très loin, quoi. Donc voilà. Et puis vous le savez aussi, quand on monte des projets infrastructuraux d'importance, il y a le temps de la réalisation aussi.
Bien sûr, ça se fait pas en un claquement de doigts.
Exactement. Donc vous montez vos dossiers, puis après il y a le temps des travaux, puis après il y a le temps de la livraison. Et plus vous attendez, plus le temps passe.
Oui.
Voilà, donc ça devient éminemment stratégique. Mais c'est une très bonne nouvelle pour la Nièvre, hein, parce que investir là-dedans, c'est investir gagnant.
Voilà. C'est vrai.
Et puis la jeunesse, vous en êtes les dignes représentants. C'est ce qui fait avancer un département, une région, un pays.
Donc pour faire le lien avec ce que vous avez dit, vous avez parlé de structures pour l'EDR. Aujourd'hui, quelles sont les structures mises à disposition pour l'EDR? Et est-ce qu'elles sont en commun avec celles mises à disposition pour l'équipe professionnelle du club?
Alors, pour les gens qui fréquentent le club, vous en êtes d'ailleurs.
Oui.
Vous savez qu'il y a une spécificité chez nous, je pense qu'on est quasiment le seul club d'ailleurs qui est comme ça, c'est que quand vous venez chez nous, vous ne savez même pas si vous êtes dans le secteur professionnel ou le secteur amateur.
C'est vrai que ça se croise beaucoup.
Voilà. On partage les mêmes locaux, le même self, parce qu'en fait les salariés de l'association mangent avec les pros, donc tout le monde, cet écosystème se côtoie, garçons comme filles d'ailleurs. Et puis à l'EDR, quand il y a les entraînements du mercredi, du samedi, vous voyez en fait les jeunes
professionnels
qui viennent, les papas et les mamans de l'équipe professionnelle qui viennent voir les jeunes. Donc ça, c'est quand même vraiment super, quoi.
Mais c'est, en fait, ça reprend les valeurs de la région, en fait, de la proximité entre tout le monde.
Ouais, quoi. C'est très familial, c'est très...
Oui, et puis je pense que c'est l'ADN du club. Encore une fois, le club a 120 ans. On est un vieux club de rugby, mais un jeune club professionnel. Et on n'a pas perdu cet ADN-là. Ça veut dire qu'il y a de la convivialité, il y a de la proximité, et c'est ce qui fait qu'on réussit, en fait.
En 2024, les élections du comité directeur de l'association auront lieu. Souhaiteriez-vous vous y présenter une seconde fois?
Pour qu'un président reprenne le relais, il faut qu'il vienne avec un projet sportif, qui soit dans la continuité, oui, bien sûr, de ce qui se fait, mais qu'il apporte quelque chose supplémentaire. Donc on est un petit peu dans l'anticipation, là on est à plus d'un an de l'événement. On y réfléchit avec le bureau bien évidemment et le comité directeur. On y réfléchit aussi avec la partie professionnelle et Régis Dumange. Et il faudra que cette personne, qu'elle soit garçon ou fille d'ailleurs, s'inscrive dans cette logique-là. Voilà. Après, encore une fois, on se concentre aujourd'hui sur la saison en cours, parce qu'on a des choses à aller chercher. Ouais, on a notamment notre troisième sifflet en arbitrage qu'on voudrait avoir. Donc du coup, on aurait aussi le plus haut niveau reconnu au niveau arbitrage. En EDR, c'est fait, mais il faut le consolider, puisqu'en fait, cette labellisation, on l'a pour 4 ans. Donc c'est pas quelque chose d'acquis définitivement. On a nos filles à lancer. L'IFUN, on va pas faire que exister.
Oui, bien sûr, il faut...
Voilà. Puis derrière, on a aussi mis en place un budget qui nous permettra d'être à la hauteur de nos ambitions. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et puis, on a nos U16, U18, U14 qui vont aussi exister en Super Challenge. Et de plus en plus maintenant, parce qu'on fait toutes les phases de Super Challenge. On a tous nos clubs partenaires à aller chercher. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, les espoirs, parce que on aspire chaque année, d'ailleurs, à aller chercher cette qualification en élite. Et d'ailleurs, les espoirs en ce moment au niveau de la fédération et des clubs pro, la question est posée de peut-être de revoir le format de cette compétition pour qu'elle serve à la fois au niveau national pour les équipes nationales jeunes et à la fois sur le milieu professionnel. Parce que plus il sera utile pour le milieu professionnel, ben plus en fait les présidents de SASP s'intéresseront aux compétitions amateurs. Voilà, c'est un tout, c'est un écosystème global. Oui.
Très bien. Eh bien, pour terminer, je voulais vous poser une question un petit peu particulière, puisqu'on connaît les risques du rugby, notamment ceux qui sont liés à l'intégrité physique. Donc, est-ce que vous auriez des conseils s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui souhaiteraient essayer le rugby, mais qui seraient quand même assez réticents vis-à-vis de tout ça ?
Oui, bien sûr. Ben, déjà, il y a une section sportive loisirs chez nous, hein, le rugby à toucher, rugby à 5, qui avant était confidentielle, aujourd'hui, qui marche très très bien,
oui,
et qui a même des résultats assez intéressants. Donc voilà. Puis c'est aussi mixte, garçons et filles.
Oui.
Donc vous pouvez venir faire du rugby d'évitement, enfin toucher, hein, pour le coup, il n'y a pas vraiment de contact.
Non, là, c'est...
Sauf si vous poussez vraiment, oui, très fort, ça arrive des fois. Mais en tout cas, voilà, ça peut être très sympathique pour pouvoir commencer à toucher les choses. Et puis autrement, vous pouvez venir aussi essayer complètement le rugby, hein, à 15, pourquoi pas. Et puis, de toute façon, on ne vous lâchera pas dans l'arène comme ça. Hein. Il y a l'entraînement au départ et puis on fera tout pour vous mettre en sécurité.
Oui, il faut expliquer qu'il y a... Dès l'école de rugby, il y a un accompagnement par rapport à ça, les bons gestes, les bonnes attitudes,
les bonnes postures.
Tout à fait. Puis au-delà de ça, on ne le répète jamais assez, mais il y a l'entraînement invisible. Ça veut,
oui,
dire qu'aujourd'hui, on parle de compléments alimentaires, etc. J'en parlais justement tout à l'heure aux jeunes.
Oui.
Ok, c'est très bien, mais en fait, commençons par la base. Ça veut dire alimentez-vous correctement, dormez correctement, posez vos portables à 22h. Ayez une hygiène de vie normale, saine. On ne vous demande pas de devenir des moines, mais voilà.
Oui, bien sûr.
Et puis, déjà, si vous faites tout ça et que vous vous entraînez sérieusement, vous allez voir que individuellement, ça va s'améliorer, mais de façon significative.
D'accord. Donc, pour conclure cette émission, on avait une question à vous poser à vous deux par rapport au contexte qui s'annonce durant ce prochain mois de septembre. Est-ce que vous auriez un mot à passer à notre équipe de France qui va jouer sa Coupe du Monde ici même en France?
on est tous derrière vous, bien évidemment. Allez-y, allons chercher le Graal qui nous manque. C'est pas tout le temps qu'on a la chance d'avoir une Coupe du Monde qui se passe en France. Bien évidemment qu'on sera tous derrière les Bleus, et puis ça va aussi créer des vocations chez les jeunes qui vont vouloir très certainement essayer ce fameux rugby, voilà, soit au niveau loisir, soit au niveau amateur, garçon comme fille. Et en tout cas, Lucerne Nevers Rugby se fera un plaisir d'accueillir tous ces gens-là, parce qu'on a la structure pour pouvoir le faire. Encore une fois, l'idée, c'est pas de faire du volume, mais de la qualité.
Exactement. Eh bien, merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, et on vous souhaite une très bonne et belle saison, tant au niveau professionnel qu'au niveau de l'école de rugby.
Merci à vous.
Merci.
On se retrouve maintenant pour les actualités de cette semaine et de ce mois de septembre pour le club. Donc les U16 et U18 joueront un match amical face à Vannes le 16 septembre à Chinon. Les seniors féminines joueront un match amical face à Vitry le 17 septembre avant de débuter leur saison fédérale 1 le 8 octobre face à Bron. Et les espoirs auront également un match amical face au Loup le 23 septembre à Paray-le-Monial.
Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette émission Radio Valley, et à bientôt sur Bac FM.